Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 10h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Bonjour à tous, bienvenue. Vous le savez, tous les jours à cette heure-ci, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. D'ailleurs, dans une trentaine de minutes, nous parlerons ensemble de la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Vous le savez certainement, en début de semaine, les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense ont décidé de mettre sur pied une opération navale contre le trafic de migrants. Des navires de guerre et des avions de surveillance seront donc mobilisés pour identifier, capturer et mettre, nous dit-on, hors d'état de nuire les bateaux de passeurs. Le problème, c'est que le périmètre de cette opération dépendra d'une résolution de l'ONU, car pour détruire les embarcations dans les eaux territoriales libyennes, il faudra absolument le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous rappelle que la Libye est devenue la principale plateforme des trafiquants de migrants en Méditerranée. Alors, cette opération navale européenne vous semble-t-elle efficace? Comment l'Europe peut-elle efficacement et concrètement lutter contre les filières d'immigration clandestine? Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. Je lirai évidemment tout à l'heure vos commentaires pour alimenter le débat, alimenter la réflexion. Et vous nous rejoignez évidemment au standard. Toute l'équipe vous attend. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. La première question nous vient du Bénin. José nous appelle de Calavi exactement. Bonjour José.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions donc sur votre pays, le Bénin, et surtout sur le scandale suscité par le détournement de l'aide au développement versée par les Pays-Bas.
Oui.
On vous écoute.
En fait, j'aimerais savoir, parce que sous la pression d'opposants au pouvoir, notamment Victor Topani, le ministre des Mines, Barthélémy Kassa, a donné sa démission. Et j'aimerais savoir quels pourraient être les impacts d'une telle décision des Pays-Bas sur les relations avec le Bénin et les relations du Bénin avec l'Union européenne.
Ouais, on rappelle que le montant détourné s'élève à près de 3 milliards de francs CFA, soit 4 millions d'euros d'aide destinée à un programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Bonjour Delphine Bousquet.
Bonjour Juan.
Vous êtes la correspondante d'RFI au Bénin. Il faut rappeler que c'est un audit qui a révélé ces irrégularités. Les Pays-Bas ont donc annoncé la suspension de leur aide. Du coup, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a démissionné. Quel impact, finalement, cette démission aura-t-elle dans l'avenir de la coopération entre les Pays-Bas et le Bénin?
Alors José, pour bien répondre et pour bien comprendre, il faut rappeler que les Pays-Bas ont posé 4 conditions pour reprendre leur coopération. Première condition, les responsabilités politiques doivent être assumées. Deuxième condition, un audit doit être réalisé par un cabinet international. Troisième condition, il doit y avoir des poursuites judiciaires contre les fautifs. Quatrième condition, il faut mettre en place des mesures pour éviter que ça ne recommence. Donc la démission, il y a une semaine, du ministre de l'Énergie et de l'Eau, répond à la première condition. Barthélémy Kassa a quitté le gouvernement au nom de la responsabilité politique et morale, c'est ce qui a été dit. C'est une avancée et c'était un préalable pour les Néerlandais avant de passer à la deuxième étape, le recrutement d'un cabinet international qui viendra au Bénin pour faire cet audit.
Oui, d'ailleurs, concernant ce cabinet international, les discussions sont déjà en cours.
Effectivement, vendredi dernier, il y a eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères béninois, l'ambassadeur des Pays-Bas et le représentant de l'Union européenne au Bénin. Alors, il n'y a pas beaucoup de structures dans le monde qui font ce travail d'audit-là. C'est très spécifique. C'est vraiment comme une autopsie médicale. Toute la chaîne du projet sera décortiquée. Il faut savoir aussi que cet audit sera payé par le gouvernement béninois. Alors, José, à ce stade, difficile de dire quel sera l'impact sur les relations entre le Bénin et les Pays-Bas d'une part, et entre le Bénin et l'Union européenne d'autre part, car tout va dépendre de l'attitude des autorités béninoises et de ce qui se passera après l'audit, notamment au niveau judiciaire. La justice est lente, il a fallu une semaine avant qu'un juge d'instruction ne soit désigné pour enquêter dans cette affaire.
Oui, d'autant que les Pays-Bas ont quand même fixé une sorte d'ultimatum au gouvernement béninois.
Absolument, le gouvernement a jusqu'au 1er août prochain, c'est en plus la date de la fête nationale au Bénin, pour montrer qu'il veut tirer les choses au clair dans cette affaire et que ceux qui ont détourné l'argent seront bien punis et rembourseront les fonds. Alors si les signes sont là, la coopération pourrait reprendre hein, si le gouvernement montre qu'il veut tirer cette affaire au clair. Sinon, que se passera-t-il ? Les Pays-Bas ne peuvent pas indéfiniment suspendre leur aide. Est-ce qu'ils quitteront le Bénin ? On n'en est pas encore là, tout ça ce sont des supputations. Côté néerlandais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pratique la tolérance zéro contre la corruption et la mauvaise gestion. La confiance a été rompue et il faut récupérer cette confiance. Et c'est très important pour le Bénin, car la Hollande est le premier contributeur pour le secteur de l'eau et de l'assainissement et le quatrième bailleur bilatéral.
Oui, donc le Bénin ne peut pas se passer de cette aide. José nous demandait également l'avenir de la coopération entre le Bénin et l'Europe, puisque de son côté, l'Europe a quand même suspendu ses paiements dans ce programme lié au secteur de l'eau et de l'assainissement. Que sait-on de l'attitude de Bruxelles ?
Voilà, l'Union européenne a suspendu effectivement ses paiements seulement pour le programme. Hein, le reste de la coopération continue. Mmh. Côté européen, bah, en fait, on attend que le gouvernement pose des actes concrets pour assurer la communauté internationale. L'Union européenne sera très attentive au respect de la quatrième condition dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures qui seront mises en place pour que ces malversations n'arrivent plus jamais. Car ces faits montrent que le contrôle de la gestion des finances publiques ne fonctionne pas, ou pas bien, il y a eu des ratés. N'oublions pas que c'est le trésor public qui a décaissé l'argent. Or, l'Union européenne apporte un appui budgétaire au Bénin en contribuant directement au budget de l'État. Par ailleurs, le Bénin et l'Union européenne doivent élaborer ensemble la prochaine convention de financement qui comprend un volet amélioration de la gouvernance et c'est aussi la gouvernance économique. Alors en tout cas, Juan, cette affaire va créer un précédent pour le Bénin et aussi pour ses partenaires techniques et financiers car c'est pas habituel d'arrêter une coopération de cette manière.
Et on en parlera certainement vendredi dans la Libre Antenne, puisque vous êtes déjà quelques auditeurs à nous avoir dit au standard vouloir absolument réagir à la suspension de cette aide néerlandaise au développement. Merci beaucoup Delphine Bousquet, on salue José qui nous appelait de Calavi. Alejandro Valente, le chef du service des sports, s'installe, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce studio et comme à chaque fois que vous venez quasiment, on va parler football une fois de plus, mais là on va parler de la grogne des footballeurs espagnols. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, monsieur Juan.
Vous nous appelez de Ouagadougou, au Burkina, on vous écoute.
Oui, bon, j'ai deux questions au sujet de la grève qui menaçait le championnat d'Espagne. Bon, quelles sont les raisons pour lesquelles la justice espagnole a décidé de suspendre la grève ? Y a-t-il eu des accords entre le syndicat des joueurs et la Fédération espagnole de foot ?
Alors, Alejandro Valente, c'est le grand soulagement évidemment pour les amateurs du football espagnol. Il n'y a pas eu grève des joueurs foot dimanche dernier, donc dimanche prochain, il y aura quand même du foot également. Tout le monde pourra suivre la finale de la Coupe du Roi, ce sera le 30 mai, donc vous voyez, tout va bien. Mais c'est la justice qui a dit aux joueurs, vous arrêtez tout de suite votre mouvement de contestation.
En fait, il n'y avait pas que les joueurs, hein. C'était à l'origine, il y avait la décision de centraliser la distribution de l'argent émanant des la vente des droits télévisés. Jusqu'à présent, c'était les grands clubs qui en gardaient la plus grande partie car chacun faisait de son côté. Maintenant, c'est centralisé, donc c'est organisé. Et donc, c'est un décret royal qui a été publié, qui règle tout ça. Et évidemment, la manière dont le gâteau est partagé ne fait pas plaisir à tout le monde. La fédération a estimé que la part était trop belle pour la Ligue, que la fédération était un peu oubliée dans cette affaire. Elle a même fait appel à... Donc, elle est à l'origine de ces mouvement et là un peu incité les syndicats des joueurs à profiter de l'occasion pour déclarer également une grève. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La justice a estimé que cette grève n'était pas justifiée.
Mais
parce que déjà normalement on peut pas faire grève contre un décret, il faut que ce soit des grèves contre les patrons par exemple.
D'accord.
Donc c'était pas vraiment le cas et puis il dénonçait la convention collective, on peut pas faire grève en Espagne contre une convention collective qui est en vigueur. Bon, après, il peut y avoir des appels, des contre-appels, mais la justice a dit, il faut que si on entre dans un tel processus, on ne pourra jamais terminer le championnat, car les engagements ultérieurs font qu'on ne pourra pas le faire.
L'Espagne a des engagements internationaux.
Donc voilà, ce serait un chaos total, ce serait une catastrophe. Donc, la justice a ordonné que la grève soit levée, et a prévu un montant de plusieurs millions d'euros pour indemniser les syndicats des footballeurs si jamais la justice, en fin de compte, estimait que la grève pouvait être justifiée.
Donc la grève a été levée, mais la crise n'est pas pour autant terminée.
Non, pas du tout. Alors aujourd'hui, on négocie. Il y a la FIFA, l'UEFA qui ont envoyé des émissaires afin de s'informer pour savoir si ces décrets ne constituent pas une ingérence du gouvernement dans les affaires de la fédération. Donc ça peut traîner encore. Il y aura sûrement des discussions sur certains points. Par exemple, les joueurs estiment qu'il faut prévoir pour les joueurs qui sont au chômage, etc., une couverture sociale plus large grâce à cet argent. Donc, sûrement, il y aura des concessions à ces niveaux-là.
Oui.
Mais bon, là, les championnats vont se terminer et on aura le temps de discuter.
Voilà, et on sait déjà que le Barça est champion cette année.
Le Barça est champion et il va jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre Bilbao.
Voilà, exactement. Merci Alejandro Valente. Philippe, à Ouagadougou, on a répondu à vos questions.
Oui, je suis satisfait.
Eh bien, bonne journée à vous et merci de nous écouter sur place. 33 9 693 693 70, vos questions à la rédaction. Gaël, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes au Gabon, vous écoutez RFI à Libreville et vous avez des questions sur le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Afghanistan et le Pakistan.
Oui, Juan, le président pakistanais a rendu il y a quelques jours visite à son homologue afghan. Et je sais que les relations entre les deux hommes étaient vraiment tendues. Je voudrais savoir quel est le but de ce rapprochement entre ces deux hommes.
Oui, c'est vrai que les relations ces dernières années étaient particulièrement tendues entre les deux voisins, puisque le Pakistan et l'Afghanistan, quand même, s'accusaient mutuellement de soutenir des islamistes autour de leurs frontières communes. Bonjour, Juliette Garbrand.
Bonjour.
Journaliste
bonjour,
au service international des RFI. Comment expliquer ce rapprochement?
Alors, rappelons d'abord ce qu'il a rendu possible, ou en tout cas facilité, c'est le départ de l'ancien président afghan Hamid Karzai, dont les relations avec le Pakistan étaient devenues tellement tendues que toute discussion était impossible. Son successeur, Ashraf Ghani, lui a tout de suite placé la pacification de la région et le rapprochement avec son influent voisin en tête des priorités. D'ailleurs, le resserrement des liens a commencé l'automne dernier avec la visite du président afghan à Islamabad. Les deux pays avaient alors mis l'accent sur une coopération économique. Ensuite, deux événements ont accéléré leur volonté de lutter ensemble contre le terrorisme. C'est un attentat qui a fait 50 morts en Afghanistan en novembre dernier. Et surtout, vous vous souvenez, l'attentat contre l'école militaire de Peshawar qui en décembre avait fait 153 morts, dont une majorité d'élèves. Enfin, autre raison à ce rapprochement, la menace que représente l'organisation État islamique pour les deux pays. Plusieurs commandants ou ex-commandants des talibans ont fait allégeance à l'organisation et elle a revendiqué pour la première fois un attentat au Pakistan, c'était la semaine dernière, une attaque contre la communauté chiite du pays qui a fait 45 morts parmi les passagers d'un autocar.
Et puis il y a un autre point qui est important, il me semble, c'est la question des discussions avec les talibans.
Oui, le président afghan s'est toujours dit favorable au dialogue et il compte pour cela sur l'aide de Nawaz Sharif. Le Pakistan est proche des talibans afghans dits historiques qui sont emmenés par le Mollah Omar et Islamabad, selon le président afghan, peut jouer un rôle de médiation.
Oui, on rappelle que le Pakistan, depuis très longtemps, est accusé d'offrir de l'aide, mais aussi un refuge aux talibans afghans.
En effet. Et puis une dernière chose sur ce point, comme me le rappelait notre correspondant à Kaboul, Joël Bronner, deux puissants voisins de l'Afghanistan et du Pakistan ont intérêt à ce rapprochement. Ce sont l'Arabie Saoudite et la Chine. La Chine qui investit massivement dans le pays, au Pakistan, et souhaite mettre en place un couloir économique pour avoir un accès à la mer d'Arabie.
Voilà, on comprend mieux donc les raisons de ce rapprochement. Gaël, vous avez d'autres questions?
Oui, Juan, est-ce qu'en fait que ces deux hommes ont pu discuter ensemble et est-ce qu'ils ont pu adopter une stratégie commune pour lutter efficacement contre les talibans?
Il a surtout été question de sécurité, Juliette.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la présence aux côtés de Nawaz Sharif du chef de l'armée pakistanaise, Raïl Sharif, aucun lien de parenté, entre parenthèses, le montre. Il y a eu alors surtout beaucoup de déclarations sur cette volonté commune d'arriver à la paix, de lutter contre les talibans. Nawaz Sharif a dit à Ashraf Ghani, je vous assure, monsieur le président, que les ennemis de l'Afghanistan ne peuvent pas être les amis du Pakistan.
Alors ça, ce sont de belles paroles. Est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes?
Alors, des mesures concrètes, plus ou moins. Il y a eu la signature d'un mémorandum hier, avant-hier, de coopération entre les services de renseignement des deux pays. l'ISI pour le Pakistan et le NDS pour l'Afghanistan. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de très nouveau. L'accord existe depuis 2006. Il a été réactualisé en 2009. Sauf que jusqu'à présent, il n'avait pas conduit à grand chose. Les organismes doivent échanger leurs renseignements, mais aussi mener des opérations ensemble sur le terrain autour de leurs frontières communes.
Et c'est à peu près tout ce qui a été décidé lors de cette visite la semaine dernière.
Oui, mais ce qui est important, c'est cette volonté de montrer que les choses maintenant pourraient changer. Et on voit en effet qu'il y a un nouvel élan. Et encore une fois, je reviens sur la présence du chef de l'armée à cette rencontre, qui est un point très important, car l'armée pakistanaise est une force très influente avec laquelle le gouvernement doit vraiment composer. Si les militaires et le gouvernement sont sur la même longueur d'onde, les choses pourront bouger. D'ailleurs, le chef des armées, Raïl Sharif, s'était déjà rendu à Kaboul en décembre dernier, et puis c'est lui qui dirige les services de renseignement.
Merci beaucoup, Juliette Gerbrand. Bonne journée, Gaëlle. Merci de votre fidélité. Vous nous appeliez de Libreville. Et de Libreville, eh bien, nous partons à Bamako. Yeya est avec nous, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous êtes au Mali et vous avez justement des questions sur l'accord de paix au nord du Mali signé vendredi dernier.
Oui, merci, merci Gomez. J'ai des questions concernant la position, pourquoi certains groupes de l'assemblée ont-ils pas raté l'accord d'Alger et ne sont pas venus faire la signature définitive à Bamako?
Alors, la liaison téléphone n'est pas bonne. Pourquoi certains groupes ont-ils paraphé l'accord et ils ont boycotté la cérémonie le lendemain, la cérémonie de signature? C'est une bonne question. Bonjour Marie-Pierre Olfant.
Bonjour Juan.
Trois groupes, les trois principaux groupes rebelles ont effectivement refusé de signer cet accord. Ils l'avaient pourtant ratifié. Quelle est leur position exactement?
Ils l'avaient effectivement paraphé le 14 à Alger pour montrer leur bonne volonté. C'était un geste politique, mais pas question pour eux donc de le signer le lendemain, le 15 à Bamako, tant que leurs préoccupations ne sont pas débattues avec le gouvernement malien. Ces groupes, c'est le MNLA et aussi deux autres mouvements de la coordination des mouvements de l'Azawad, le MAA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le HCUA. Le MNLA et ces groupes ont pointé 14 points de l'accord de paix à revoir. Les rebelles demandent toujours que l'Azawad, notamment, qui est mentionné dans le texte comme zone géographique, ait un véritable statut politique et économique. Ils exigent aussi une meilleure représentation dans les forces armées qui sont basées au nord du pays. Ils veulent aussi rediscuter de la création d'une assemblée pour les régions du nord. Les autres partis qui ont signé avaient aussi des réserves, il faut le préciser, mais celles-ci, ils ont accepté de les consigner en annexe, sous forme de réserve. Le MNLA et ceux qui n'ont pas signé le 15, eux, ne veulent pas se contenter d'exprimer des réserves, mais demandent des garanties et des discussions directes avec le gouvernement malien. La médiation, elle, ne cesse d'expliquer que le débat va se poursuivre pendant des mois, sûrement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, mais qu'il n'est pas question de changer le texte du document qui a été signé.
On suivra ça, évidemment. Yeya, vous avez une autre question?
Oui. Ma seconde question, quelle a été la réaction de la France et de l'ONU à propos de la crise en Libye? Et ces groupes non signataires de l'accord.
La France et les Nations Unies ont réagi sur la position du MNLA, par exemple?
Alors, il n'y a pas eu de réaction proprement parlée, si ce n'est le regret que tous les groupes n'aient pas signé, qu'ils ne figurent pas finalement sur la photo de famille. Il faut dire que les médiateurs et la communauté internationale étaient préparés à ce que ces groupes ne signent pas. Ça n'a pas été une surprise. La seule réaction dont on peut parler, c'est que comme ils l'ont fait avant la cérémonie du 15, les voisins du Mali, l'Union européenne, la France, les Nations Unies, par la voix de Ban Ki-moon, ont lancé un nouvel appel au groupe à signer dès que possible. C'est vraiment ça leur réaction, c'est continuer à rallier tous les récalcitrants au texte, tout en dénonçant aussi avec force les violences qui se manifestent sur le terrain.
Il y a une question qui revient souvent au standard, Marie-Pierre. Que risquent les groupes rebelles qui refusent de signer l'accord? Est-ce qu'il y aura des sanctions?
Alors Ban Ki-moon a été clair, le secrétaire général des Nations Unies, le dialogue doit continuer jusqu'à ce qu'il signe. L'accord reste ouvert à une signature. Donc cette position montre qu'il n'est pas question d'appliquer demain des sanctions. Mais jusqu'à quand les médiateurs vont-ils attendre que ces groupes aillent à la signature? Aucun délai n'a été fixé à ma connaissance pour l'instant. En revanche, la question de sanctions est évoquée pour tous ceux qui ne respectent pas le cessez-le-feu en ce moment. On parlait tout à l'heure des violences, de la tension qui est montée d'un cran dans plusieurs régions du Mali. Donc les Nations Unies ce week-end et la France par la voix de Laurent Fabius ont clairement brandi à nouveau cette menace de sanctions pour tous ceux qui violent le cessez-le-feu.
Merci beaucoup Marie-Pierre Olfant et on reviendra vendredi dans la Libre Antenne sur cet accord de paix signé la semaine dernière au Mali, signé par, comme l'ont dit certains des auditeurs, entre amis. Et il manquait évidemment les belligérants pour que cet accord soit véritablement effectif. On en parlera évidemment. Merci à tous. Vous restez avec nous dans un instant le journal. Et puis dans 10 minutes, notre débat du jour consacré aux filières d'immigration clandestine. Comment lutter efficacement contre les passeurs? Vos réactions, vos témoignages et vos commentaires.